France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Nous poursuivons notre route sur la carte. Et nous nous arrêtons donc cette semaine dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Nous donnons d'abord la parole donc à un citoyen soucieux du devoir de mémoire bénévole à l'UNICEF. Il se prénomme Fabien, il se prépare à parcourir les 3000 kilomètres qui séparent le camp d'internement de Gurs à Auschwitz. Cette aventure mémorielle prend un sens évidemment encore plus prononcé aujourd'hui, puisque la mémoire de l'horreur refait surface en Ukraine. Nous serons ensuite en Mayenne, chez une paysanne boulangère, membre du réseau Repas, un réseau de pratiques alternatives qui organise des sessions de compagnonnage dans le milieu agricole et artisanal.
Carnet de campagne. Le journal. Des solutions.
Fabien de Villiers, bonjour.
Bonjour Philippe.
J'aime énormément votre histoire, j'aime énormément votre projet de l'aventure mémorielle. J'en ai dit quelques mots il y a quelques semaines. J'ai rappelé un fait qui vous a apparemment marqué. Vous avez été élu communal à La Sac, en Corrèze, et vous disiez que lors de commémorations, vous étiez obligé de porter les couleurs de la République et en même temps de vous interroger sur le sens de votre présence dans des commémorations à l'égard de conflits que vous n'avez jamais connus.
Absolument, oui. Alors, j'étais pas obligé. On m'avait proposé, j'avais bien volontiers accepté parce que c'était un honneur, mais du coup, cet honneur, je me sentais pas forcément légitime, n'ayant pas connu de conflit et n'ayant pas forcément non plus dans ma famille des faits d'armes ou de résistance remarquables ou remarqués.
Oui. Aujourd'hui, on en a un à nos portes quasiment. Ça ne vous a pas ébranlé et ça n'a pas remis en question votre projet?
Ça m'a touché parce que c'est très grave et que j'ai envie, en fait, encore plus de faire mon aventure pour apporter mon soutien, que ce soit moral ou financier, puisqu'il y aura la cagnotte UNICEF. Et donc, ça m'a remotivé à faire cette aventure.
Et donc, vous vous êtes donné comme défi de réaliser un parcours depuis le camp de Gurs, le camp de Gurs, pas loin de Pau, qui a accueilli pendant la Deuxième Guerre mondiale 60 000 personnes, mais il y a aussi les populations juives. 4 000, si mes souvenirs sont bons, juifs, sont partis de Gurs vers Drancy et ensuite à Auschwitz. C'était une manière de marquer déjà votre ancrage dans la mémoire historique.
Disons que partir de Gurs, c'était faire le lien entre plein de pays, entre plein d'histoires, entre plein de mémoires, et je trouvais ça à la fois triste qu'on soit tous reliés, tous les peuples européens sont liés par cette guerre, mais aussi beau que l'on puisse tous se sentir attachés au même passé, à la même histoire, et que ça crée en fait un lien entre nous, et aujourd'hui ce lien qui était avant velléitaire et conflictuel est devenu un lien de paix, et je trouvais ça important de l'entretenir et du coup de lier tous ces territoires avec mon aventure.
Il y aura des étapes symboliques fortes, au Radour-sur-Glane, mais aussi au Parlement européen. Qu'attendez-vous du Parlement européen à Strasbourg?
Alors, je trouvais ça hyper important. C'est une aventure mémorielle, mais c'est surtout une aventure européenne, parce que je vais traverser trois pays, la France, l'Allemagne, la Pologne. Et je trouvais ça important de m'arrêter dans une des institutions emblématiques de notre époque et de nos démocraties européennes, qui est donc le Parlement européen. Et j'espère, en fait, là-bas rencontrer des députés européens. J'ai déjà noué des contacts et des rencontres sont en train de se confirmer. C'est pas encore officiel ni sûr, mais c'est en bonne voie.
Alors, il y a une cagnotte en ligne qui est ouverte, destinée à récolter des fonds au profit de l'UNICEF. Qu'espérez-vous de l'utilisation de ces fonds? Parce que vous allez toucher beaucoup d'enfants dans les écoles aussi sur le travail de mémoire.
Alors, cette cagnotte UNICEF, je voulais vraiment que mon aventure ne soit pas tournée que vers le passé, vers l'histoire, mais qu'elle soit aussi ancrée dans des combats actuels. Et on le voit encore aujourd'hui avec ce qui se passe en Ukraine et dans d'autres pays où il y a des guerres, les premières victimes de la guerre, ce sont les enfants.
Absolument.
Et l'éducation. Donc, ce que j'espère, c'est que cet argent récolté pour l'UNICEF et qui sera directement récolté sur un site de l'UNICEF, ira sur des projets qui permettront aux enfants d'assurer leur droit à l'éducation, puisque c'est le meilleur outil pour lutter contre l'obscurantisme, contre le repli sur soi et donc tout ce qui peut nuire à la paix entre les peuples.
Ouais. Le départ est prévu le 24 avril, journée nationale du souvenir des victimes de la déportation.
Tout à fait. Et aussi, deuxième tour des élections présidentielles, donc il ne faudra pas oublier d'aller voter.
Ça veut dire que vous allez voter avant de partir.
Alors, je vais voter par procuration.
Et alors, j'ai lu, mais est-ce que ça va être le bon timing? Arriver à Auschwitz le 14 juillet?
L'arrivée n'est pas encore tout à fait définie, mais ça sera en tout cas la deuxième semaine de juillet. Ça reste encore à caler en fonction notamment des interventions dans les écoles qui vont se faire là au fur et à mesure des semaines à venir.
Ouais, votre aventure mémorielle prend un drôle d'écho aujourd'hui. Vous qui voulez cultiver l'optimisme, l'idéalisme, protéger la paix, promouvoir l'engagement citoyen, vous allez revenir avec quoi?
Alors, moi, ce que j'espère, c'est avoir une meilleure compréhension, une meilleure connaissance de l'histoire de la déportation, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de la résistance, de tout ce qui a pu se passer à cette époque-là. La deuxième chose, c'est que ce projet, c'est aussi un moyen pour moi de m'épanouir d'une certaine façon, en tout cas d'aller au bout de mes convictions, parce que c'est un projet que j'ai reporté, repoussé, parce que j'avais peur de le faire, parce que je me suis laissé entraîner dans le tourment de la vie, les études, ensuite le travail. Je me suis pas beaucoup écouté, finalement, ces dernières années. Et ce projet-là, c'est une façon de m'écouter, de prendre ma revanche sur ça. Et ce que j'espère, c'est ressortir de cette aventure plus confiant de moi, plus sûr de moi, et du coup, de pouvoir me lancer plus serein dans la suite de ma vie.
L'aventuremémorielle.org, il y a le site de Fabien, où on peut suivre son aventure aussi, fabiendevilliers.fr, et n'oubliez pas la cagnotte UNICEF au profit des enfants. Merci beaucoup, bonne route, bon courage, merci pour cet engagement et cet exemple, Fabien.
Merci beaucoup à vous, Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
On n'a jamais entendu autant parler de réimplantation des arbres aujourd'hui. L'exemple en est donné par l'association Arbres et Agriculture en Aquitaine, dont le siège est à Briscousse dans les Pyrénées-Atlantiques. Ici, les questions d'agroforesterie, pratique de plus en plus adoptée par les paysans, les agriculteurs, les éleveurs, même les viticulteurs. Il s'agit de rendre, pour rappel, sa place à l'arbre hors forêt dans des parcelles agricoles sur lesquelles on peut pratiquer l'élevage ou la culture végétale. Les formes d'agroforesterie sont multiples, en haies, en arbres émondés, c'est-à-dire les trognes, en arbres isolés ou en arbres fruitiers. On trouve même du vignoble agroforestier. L'association ne fait pas que conseiller ou replanter des haies, elle anime des réunions locales d'information destinées aux agriculteurs ou aux professionnels concernés. Elle communique dans la presse régionale et sur le net. Elle organise également des journées d'échange et de formation. Elle opère un état des lieux également de l'agroforesterie en Aquitaine. Alors avec le référencement des exploitations, des implantations et des filières de production. Et puis enfin, parce que vraiment son programme est large, elle a fait un suivi des réalisations et elle a établi un bilan annuel avec l'IGN agroforesterie trait-d'union-aquitaine.com pour l'adresse. Estelle Losquin, bonjour.
Bonjour.
Enfin, une paysanne boulangère à l'antenne. On a une majorité d'hommes, de paysans boulangers, mais la féminisation des métiers de la paysannerie, de l'agriculture est en vogue en ce moment, et tant mieux. Vous travaillez au GAEC Radie & Co, à Montflour en Mayenne, et vous faites partie du réseau Repas. Alors d'abord, vous avez été formée sur le tas, Estelle, ou vous avez suivi une formation bien spécifique?
Effectivement, c'est une reconversion professionnelle. Avant, je faisais de l'accompagnement de projet dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'ai fait une reconversion en passant un BTRA d'une boulangère, oui, en Tarn. Et donc, effectivement, je suis associée depuis... j'entame ma deuxième année, là, au GAEC Radie & Co. Donc, c'est une ferme collective en polyculture élevage qui existe maintenant depuis 10 ans.
Donc, GAEC de 5 personnes plus 3 salariés. Donc, vous êtes 8 à travailler dans le GAEC.
Tout à fait.
Oui, pas mal. Ça veut dire que, économiquement, vous avez quand même trouvé une bonne formule de fonctionnement.
On a un fort soutien local. C'est vrai qu'au niveau de notre commercialisation, on commercialise au plus loin à 15 kilomètres de chez nous, donc c'est vraiment super.
Ah oui, mais ça veut dire que vous avez une forte densité de population et donc de clientèle potentielle.
Tout à fait. Ben en fait, notre clientèle est principalement au sein des AMAP. Donc on a 3 AMAP et c'est vrai qu'on est très content d'approvisionner toutes ces familles avec des produits locaux, bio, donc c'est super.
Le fait d'entrer dans le réseau Repas, réseau d'échanges et de pratiques alternatives et solidaires que l'on connaît, qui par ailleurs aussi est une maison d'édition, c'est une manière de marquer votre engagement alternatif dans la paysannerie ?
Alors ça fait déjà quelques années que avant que j'arrive, que le GAEC est entré au sein du réseau Repas. Donc oui, je pense qu'en fait, l'idée c'est de pouvoir ouvrir aux personnes intéressées à monter finalement des projets dans le milieu agricole, de pouvoir passer des temps d'immersion au sein de la ferme et de pouvoir partager un peu notre fonctionnement collectif.
Oui, puisque donc le réseau a mis en ordre de marche un compagnonnage. C'est un parcours de 8 mois en situation pour comprendre, expérimenter tout ce qui relève de nouvelles formes de travail dans le milieu agricole en sous forme d'autogestion. Alors on découvre donc les gestes, l'organisation, la gestion, la production. Vous en avez reçu chez vous des compagnons ?
Alors là, on a fait une pause en fait du compagnonnage l'an dernier, mais les années précédentes, tout à fait, on accueillait des compagnons, compagnonnes sur la ferme, dans différents cadres en fait. Il y a des phases d'immersion et des phases de groupe action. Donc durant ces phases d'immersion, et ben en fait, les compagnons compagnonnes viennent s'immerger au sein de notre collectif. Et donc eux, ils seront en autogestion dans leur organisation collective. Mmh. C'est un peu pour qu'ils expérimentent entre eux le fonctionnement collectif.
Oui. Pour candidater à un compagnonnage, que faut-il faire ?
Il faut envoyer sa candidature tout simplement, et c'est ouvert à tout le monde en fait.
Oui, il y a peut-être des exigences dans le profil du candidat, non ?
Ça s'adresse, je pense, à toutes les personnes qui ont envie de redonner du sens à leur mode de vie ou leur activité professionnelle. Et typiquement, c'est vrai que le profil des compagnons, compagnonnes, c'est un peu la tranche d'âge 20-40 ans. Donc c'est des personnes qui se questionnent un peu sur leur métier, qui sont par exemple dans une phase de reconversion professionnelle.
Avec quelle motivation, c'est-à-dire quels enjeux d'avenir sur des métiers relevant de l'agriculture ?
Alors il n'y a pas que, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'agriculture. Je voulais aussi parler des autres structures. En fait, on est une douzaine de structures donc qui vont accueillir cette année. Et l'an prochain, des compagnons, compagnonnes. Donc, les secteurs d'activité sont très variés et les statuts aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une culture commune qui est le fonctionnement collectif en autogestion avec un partage de décisions sans hiérarchie et des questionnements aussi autour du partage des résultats entre les coopérateurs, coopératrices ou associés selon le statut. Et par exemple, donc nous, effectivement, on est une ferme collective. Il y en a deux autres au sein du réseau Repas. Mais il y a aussi, par exemple, un bar, restaurant, épicerie, brasserie qui est géré en coopérative dans le Morbihan, une scierie dans la Creuse en statut SCOP, des ressourceries en statut associatif. C'est très varié. Et en fait, je pense que ces structures ont en commun une forte volonté en fait d'expérimenter de nouveaux rapports au travail, de recréer des relations de proximité avec les consommateurs, consommatrices, et une forte implication en fait sur le territoire où elles se sont implantées. Il y a des gros enjeux autour de ça. Et en fait, je me disais l'autre jour, c'est vrai que le réseau Repas existe depuis plus d'une vingtaine d'années.
Oui.
Et je trouve qu'aujourd'hui, ça reste particulièrement d'actualité parce qu'il y a énormément de personnes qui s'interrogent sur leur manière de vivre et de travailler.
Le réseau, c'est réseaurepas.free.fr, mais il y a aussi la page du compagnonnage, trait-d'union-repas.org. Pour les prochaines sessions, candidature 2022 encore ouverte, c'est jusqu'au 24 avril minuit, donc il vous reste quelques jours si vous voulez vous porter candidat à ce compagnonnage du réseau Repas. Merci Estelle.
Merci à vous.
Je conclue par un courrier de Lola qui dénonce une jeune entreprise montpelliéraine, Transfarmers. L'invention de cette start-up est un pot de fleurs intégrant un lombricomposteur en terre cuite à placer dans son salon sur sa terrasse. Cette création est le fait entre autres de Louis, diplômé de l'école d'ingénieurs agro ParisTech, qui cherchait une solution de compostage adaptée aux appartements. Donc aujourd'hui, voilà, le principe est très simple. On dépose ses épluchures de cuisine ou son marc de café et les vers se chargent de les assimiler, de les transformer en aliments nutritifs pour la plante. Les pots sont conçus en matériaux naturels et durables. Ils sont 100% made in France. J'anticipe sur votre question. Non, cela ne dégage aucune odeur non plus. Horreur. Les transfarmers.com pour l'adresse.